Tes yeux bleus, tes yeux clairs, les cheveux blonds que tu as, et tes lèvres qui sont plus douces que moi. Poème d'amour signé Santiago, 6 ans et demi.
Pascal Paradou.
L'enfant amoureux est devenu écrivain, passant d'un pays à un autre, d'une langue à une autre, et signe aujourd'hui un nouveau récit sur son enfance en Uruguay, le premier exil. Bonjour Santiago Amigorena.
Bonjour.
Ce poème d'amour, le premier que vous ayez écrit, est donc retranscrit dans votre livre qui a été écrit plus de 50 ans après. Mais vous l'aviez gardé, ce premier poème ?
Oui, j'essaye de garder absolument tout. Donc, j'ai des traces écrites de pratiquement toute ma vie. Mais quand j'écris les récits qui retracent ces périodes, je ne m'interdis pas non plus de faire quelques petits textes apocryphes.
Donc, il est apocryphe ou il n'est pas apocryphe ?
Non, pas celui-là, pas celui-là.
Adressé à Ruth, c'était le nom de cette jeune enfant dont vous tombiez amoureux pour la première fois. Il y a pas mal de fautes d'orthographe. Hein.
Oui. Justement, c'est quoi, ça atteste peut-être de l'âge que j'avais à l'époque. Mais j'ai continué à faire des fautes d'orthographe jusqu'à 30 ans, 35 ans. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe.
Mais c'est grave ou c'est pas grave? Parce que j'ai l'impression que vous dites que, voilà, heureusement que les enfants, notamment, font des fautes d'orthographe.
Je pense que les fautes d'orthographe, oui, elles peuvent absolument égayer l'écriture et elles peuvent aussi nous informer peut-être sur quelque chose qui serait le cœur du langage, quoi, qui est... Ce paradoxe, disons, dont je parle dans le livre, qui est le fait qu'on apprend à parler d'une manière tout à fait naturelle, qu'on apprend à parler vers l'âge de 2 ans sans écouter aucun adulte en particulier, en écoutant les langues qui nous entourent, sans règles, et qu'ensuite on apprend à écrire avec des règles. Et je pense qu'on pourrait imaginer que l'apprentissage se fasse de la même manière pour la langue écrite et la langue parlée. Et là, évidemment, il y aurait énormément de fautes d'orthographe. Pour moi, elle serait plutôt joyeuse.
Bon, les instits ne vont pas être très d'accord, mais moi, je trouve ça assez séduisant. Santiago Amigorena, ce récit, comment faut-il l'appeler, est un des chapitres d'une œuvre plus vaste, composée a priori de 12 livres. Alors, certains ont déjà été écrits, d'autres pas encore, qui ensemble vont constituer le dernier livre. C'est le titre que vous avez choisi. Est-ce que ce sera une autobiographie ?
Bon, c'est un peu plus que ça, malheureusement. Moi, j'aime bien l'appeler autobio-encyclopédie. J'aime bien ce terme, ça vient d'un texte de Derrida sur Joyce, où il parle de circumvolution autobio-encyclopédique. Voilà, c'est une autobiographie, mais qui essaye d'englober un peu tout ce qu'il y a eu avant. Et comme j'étais très ambitieux au moment où je donnais ce titre, quand j'avais 20 ans, le dernier livre, tout ce qui pourrait venir aussi après.
Mais ce projet de vos 20 ans est celui que vous tenez aujourd'hui encore.
Oui, absolument. J'ai donné les titres des parties, j'ai pris des notes à partir de plus ou moins, pas 20 ans, mais de l'âge de 24 ans vraiment. Mais en reprenant aussi des notes d'avant, de mon adolescence. Et voilà, je me suis dit, voilà, c'est ça que je vais écrire pendant toute ma vie.
Vous voulez donc tout écrire pour épuiser le sujet Santiago Amigorena ?
Pour épuiser le sujet Santiago Amigorena et j'espère d'autres sujets.
Écrire, tout écrire pour ne plus écrire. Tel est le projet affiché.
Oui, c'est-à-dire qu'au départ, ça s'était formulé d'une manière assez simple. C'était en même temps l'autobiographie et les œuvres complètes d'un narrateur qui porte mon nom. Donc il y aurait dans ces textes, dans ce dernier livre, absolument tout ce qu'il a écrit et tout ce qu'il a vécu. Et à partir de là... Une fois que ce serait fini, parce que mon idéal n'était pas de mourir en couchant la dernière ligne du texte, parce que ça a déjà été fait, ça aurait été une répétition un peu grossière, ça aurait été de ne plus écrire pour vivre, ou alors d'écrire juste un peu de poésie.
Mais c'est possible pour vous de ne plus écrire, parce que vous dites dans ce récit, Le Premier Exil, que c'est une perversion et que tous les matins, vous vous mettez à votre table.
Je pense que je serai capable de ne plus écrire quand j'aurai fini ce projet.
Combien de livres à écrire ?
En fait, le premier exil, ça a fini, c'est le premier chapitre de la deuxième partie. Il y a certaines parties qui ont été publiées en un seul volume, comme Une enfance laconique, la première partie. D'autres, Une maturité quad, par exemple, c'est deux volumes, Le premier amour et la première défaite. En tout cas, les quatre premières parties sont finies. Donc, il resterait deux parties qui seraient au plus quatre livres et au moins deux livres.
Mais vous rajoutez aussi des appendices. Donc ça vous autorise à écrire un peu plus ?
Oui, j'écris en parallèle, disons. J'écris en parallèle des appendices, comme le livre précédent que j'ai publié, Le ghetto intérieur, comme Des jours que je n'ai pas oubliés. En fait, il y a certains moments que je ne pense pas pouvoir intégrer dans le corpus général, disons, du dernier livre. Il y a un livre qui s'appelle Mes derniers mots, par exemple, qui raconte seulement la mort du narrateur. Évidemment, je ne vais pas la vivre et je ne vais pas la raconter après l'avoir vécue. Mais j'ai imaginé une mort à l'âge de 124 ans, 2086, et j'ai écrit un petit livre à partir de ça.
Vous avez écrit ce matin ?
Je n'ai pas écrit ce matin parce que hier, j'étais à l'hôpital avec ma fille qui a 2 ans, donc je me suis couché tard.
En tout cas, pour l'heure, vous nous racontez 6 années de votre vie, de 6 à 12 ans. Vous quittez votre pays, l'Argentine, pour l'Uruguay. Et ce sont des années où vous ne parlez pas. On vous surnomme le muet. Heureusement, depuis, vous avez retrouvé langue. Et on en parle après Jo et Jean, le duo pop du moment. Mal nous quitte, extrait du nouvel album de Jo Vedin et Jean Felsin. Santiago Amigorena est aujourd'hui notre invité pour son récit Le Premier Exil, qui raconte donc votre enfance en Uruguay, à Montevideo. Et c'est un déracinement, un exil, parce que vous venez d'Argentine et vous avez été obligé de quitter l'Argentine pour des raisons politiques.
Oui, pas vraiment moi, mais mes parents, oui, ont été obligés de quitter l'Argentine pour des raisons politiques. Et en fait, c'est un premier exil, donc d'un pays dans un autre, et qui précède le second exil, qui est l'exil qui nous a amenés en France, et qui était aussi, aussi politique au moment du coup d'État en Uruguay. Mais cet exil-là, le premier exil, c'est aussi l'exil de l'enfance. C'est-à-dire, c'est l'exil de quelque chose que j'aime bien appeler notre patrie à tous, Parce que je pense qu'il y a une manière de regarder l'enfance. Ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est se regarder l'enfance, pas pour la juger ou pas pour la comprendre, comme si c'était elle qui était à comprendre, mais voilà, pour essayer d'éclairer notre sale état d'adulte.
Vous dites enfance ou jeunesse ? Parce que 6, 12 ans, c'est le temps où l'enfant commence à maîtriser le langage.
Oui, c'est un problème de... Voilà, c'est mon côté sans doute hispanique. Parce qu'en espagnol, c'est assez simple. Il y a l'enfance, infancia, et il y a la niñez. Et la niñez n'existe pas en français. Donc, je l'appelle jeunesse, effectivement, parce que c'est le premier exil fait partie d'une jeunesse à faune. Mais voilà, en français, jeunesse se réfère aussi à un âge beaucoup plus tardif. Mais en tout cas, c'est clair que c'est pas l'infance, c'est pas le temps de notre vie où nous n'avons pas de parole. C'est vraiment, voilà, c'est le temps pour moi de l'apprentissage de l'écriture, de l'apprentissage de la lecture et aussi de l'apprentissage de l'amour, de l'amitié et voilà, d'une découverte de la politique.
Et pendant ces années-là, vous dites, Santiago Amigorena, ne pas parler, avoir eu une jeunesse aphone, c'est le titre d'ailleurs de l'un de vos livres. Pour quelle raison ? C'est à cause de l'exil, justement ?
Non, c'était... ça précédait l'exil. En fait, je suis né muet. Je suis né... pas muet par une incapacité physique, mais je suis né laconique, aphone. Je ne parlais pratiquement jamais. Et quand j'habitais en Argentine, à Buenos Aires, donc de ma naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, j'avais un cousin qui parlait à ma place. Donc moi, je frappais à la sienne, lui, il parlait à la mienne. Et on s'entendait très bien et le monde marchait plus ou moins autour de nous d'une façon tout à fait... harmonique. L'exil en Uruguay m'a éloigné de ce cousin qui prenait la parole à ma place et je suis devenu sans doute plus muet à la vue de tous. Mon handicap a été plus évident. Mais là, j'ai l'impression de parler parce que je suis un bon petit soldat et je viens parler de mon livre, mais je parle très peu quand même.
Mais est-ce que ce silence, c'est aussi lié à la première scène du livre que vous racontez, qui est la scène de la mort de l'aïeul, l'arrière-grand-père, scène qui visiblement vous a marqué, et vous racontez le silence qui entoure les dernières heures de cet homme, avec ce lapsus assez terrible, pardonnez mon espagnol, mais vous dites à votre mère « memori ».
Oui, « memori », c'est-à-dire « je suis mort quand il meurt ».
Alors que vous vouliez dire « est-il mort ?»
Oui, il est mort, voilà, c'est... C'est un lapsus enfantin qui peut être assez simple en espagnol. En français, ce serait plus compliqué. C'est-à-dire que moi, je définis mon silence. Je ne le définis pas. Je l'interroge, disons, depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé à écrire. Parce que voilà, je pense vraiment que l'écriture est une autre forme de silence. L'écriture ne guérit pas du silence. Elle enseigne un autre silence. Et l'emprisonne dans un autre silence. Et donc, je cherche toutes les origines possibles de mon silence. Il y a cet aïeul, donc mon arrière-grand-père, dont je parle au début du premier exil. Il y a mon grand-père maternel, qui est le personnage principal du ghetto intérieur. Du côté de mon père, il y a un arrière-grand-père qui est bègue. Il y a la relation avec mon cousin, il y a les exils, il y a les défaites amoureuses. C'est-à-dire que presque toute ma vie, je la conçois comme une sorte d'édifice un peu complexe. Parfois, je l'appelle une tour de Babel inversée, s'enfonçant dans le sol, où il y a quelques événements qui sont comme les architectes de cette construction, sans doute par des blessures qu'ils m'ont infligées. Mais c'est pas, je compte pas mettre fin à ma recherche des origines de mon silence. Je pense qu'elles sont, elles sont trop multiples. Je veux pas les traiter non plus comme des traumatismes où je pourrais tout d'un coup mettre le mot juste dessus et je serais absolument guéri de ce silence. L'écriture continue à être un jeu avec le silence et ça va. Même si je finis ce dernier livre et j'écris de la poésie ensuite, ce sera toujours un jeu avec le silence.
Les mots écrits sont silencieux, dites-vous. Donc vous pouvez continuer à écrire.
Les mots écrits sont absolument silencieux. Après, il y a ce moment un peu un peu étrange pour un écrivain, un peu magique pour un lecteur, peut-être, où la voix silencieuse se fait parole dans la lecture. Et c'est, je le dis comme écrivain, mais aussi je le dis comme lecteur. C'est-à-dire que voilà, quand on lit un texte sur le silence de Mallarmé, de Jacques Roubaud, de Pascal Quignard ou Louis-René Desforest, voilà, leur silence ou leur excès de langage, comme le bavard de Louis-René Desforest, nous entraîne aussi dans quelque chose qui devient une parole et qui devient quelque chose d'assez vivant.
Ce dernier exil, vous racontez ce silence. Néanmoins, à la fin du récit, vous boboyez, tatatez et pchitez comme un bon uruguayen. Ça me semble ressembler à de la parole. Je ne comprends pas bien ce que vous dites là, mais...
Bon, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'on est, effectivement, les Uruguayens sont connus partout en Amérique du Sud parce qu'ils disent « beau » tout le temps. Ils finissent toutes leurs phrases par « beau ». C'est quelque chose que j'utilise encore. Quand j'appelle mon frère, je lui dis toujours « como está, beau ».
Donc ça, c'est boboyer.
Ça, c'est boboyer. Ta, c'est parce qu'aussi, ils mettent des tas un peu partout. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de tic de langage. Le ta, il vient de « está ». On l'utilise... Ta, c'est une réponse affirmative, par exemple, à presque tout. On ne dit pas oui, on dit ta. Et pchité, ça a à voir avec la manière dont on demandait au bus de s'arrêter en Uruguay, et voilà, qui était un son assez particulier qu'il fallait émettre et que je ne savais pas émettre.
Donc tout le livre, tout votre livre, Santiago Amigorena, est donc une tentative, et là je vous cite, pour réentendre sa voix d'enfant. Donc votre voix d'enfant, et aussi toutes les sensations de l'enfance.
Oui, j'ai l'impression que très souvent, on se tourne vers l'enfance pour lui dire des choses, même quand on écrit sur l'enfance. Et bon, après, quand on n'écrit pas, encore plus aujourd'hui. Quoi. C'est-à-dire qu'on juge l'enfance tout le temps comme si c'était... Voilà, les enfants sont incultes, les enfants sont naïfs, les enfants voilà, ne savent pas. C'est une des raisons pour lesquelles on les protège, parce qu'ils n'ont pas le droit à la parole. Moi, je me suis tourné vers mon enfance pour essayer de l'écouter, pour essayer d'entendre ce que l'enfant que j'ai été avait à me dire. Mais aussi, j'aime bien l'idée qu'on se tourne tous vers l'enfance pour écouter ce que l'enfance peut nous enseigner et que nous avons oublié en tant qu'adultes. Je pense qu'il y a beaucoup d'oublis qui ont à voir avec même les oublis de l'histoire de l'humanité et qui, dans l'enfance, sont... Je ne sais pas si on y touche vraiment ou si on peut les entendre très clairement, mais voilà, j'aime bien l'hypothèse que se tourner vers l'enfance, notre enfance à nous, l'enfance de quelqu'un d'autre, un enfant qu'on a sous les yeux, pourrait nous aider, par exemple, à comprendre des choses qu'on ne comprend pas dans l'Iliade d'Homère ou chez les présocratiques.
Dans cette enfance, il y a donc les premiers émois sensuels, les premières confrontations avec la mort, les copains de la rue, la bande de Parra del Riego, le bonheur des goûters, Tommy, l'Américain, qui vous fait découvrir et les céréales et ce qu'est une machine à écrire. Et puis, il y a aussi le gomero, qui est un arbre immense. Je crois que l'on appelle cela un caoutchouc. Hein, vous l'appelez le gomero. J'aimerais, Santiago Amigorena, que vous nous lisiez un extrait de ce récit, Le Premier Exil.
De tous les jeux cruels de mon enfance à Montevideo, il en est un, en cette première année du Premier Exil, qui plus que tout autre faisait une sorte d'écho au jeu narcissique de ce premier amour. Armé des premiers canifs que notre père nous avait offerts, nous faisions, mon frère et moi, de longues entailles sur le gomero de notre maison afin de cueillir cette sève laiteuse qui, en séchant, s'est transformée en caoutchouc. Les entailles que nous tracions dans le tronc de cet arbre que nous adorions, après avoir laissé couler leurs collantes larmes de sperme, s'asséchaient, devenant des cicatrices indélébiles que nous contemplions et caressions chaque jour. Et si c'était alors les boules de caoutchouc que nous formions avec la sève qui nous ravissait, c'est à présent bien davantage ces longues blessures que nous infligions au gomero qui reviennent, tout aussi fascinantes, sans cesse, à ma mémoire. Cet arbre immense, maison, foyer, refuge, et aussi monde, forêt vierge, Himalaya, cet arbre foisonnant où j'appris à écrire et à penser, à contempler, à écouter, cet arbre dont chaque ramification me devenait si familière qu'aujourd'hui encore j'éprouve parfois la sensation physique de me fondre entre ses branches, dès que mon corps trouve le confort d'un fauteuil ou d'un canapé. Cet arbre qui m'était plus intime et plus douillé que n'importe quel lit, cet arbre aussi, j'aimais à le blesser.
Santiago Amigorénez, vraiment dans les branches de ce grand arbre que vous décidez de devenir écrivain? Parce que c'est tellement beau qu'on pourrait penser à de la fiction.
Je sais que c'est dans les branches de cet arbre que j'ai passé le plus de temps en dehors de l'école, voilà, en dehors des heures de sommeil, évidemment. Voilà, je ne sais pas comment exactement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un souvenir très clair qu'avec mon frère, nous cherchions, nous avions des coins de l'arbre, certaines branches, où nous installions tous les jours absolument pour lire, pour dessiner, pour manger du chocolat, pour regarder le monde, pour regarder les nuages, et pour écrire, sans doute pas d'une manière constante, mais je pense qu'il y a quelque chose qui, en tout cas, entre ces branches, m'a permis de trouver une sorte de distance avec le monde qui faisait que je posais un regard qui était sans doute le regard que je pose aujourd'hui.
Mais y a-t-il une part de fiction dans les souvenirs ?
Je pense qu'il n'y a aucune différence entre la mémoire et l'imaginaire. Donc je pense que la fiction, effectivement, est fondamentale à n'importe quel écrit. Pour moi, c'est évident que si je mets un dialogue dans un texte, ça certifie le côté fictionnel. Je ne me souviens évidemment pas de dialogue de mon enfance quand j'avais 6 ans, de la même manière que dans mon livre précédent, je ne peux pas me souvenir d'un dialogue entre mon grand-père à un âge où je ne le connaissais pas et des amis à lui dans un café à Buenos Aires. Mais encore une fois, je pense que c'est une des choses peut-être que peut nous enseigner l'enfant, c'est que il y a une manière de croire au réel qui n'exclut pas la fiction.
Et c'est peut-être aussi ce que la littérature nous permet, c'est-à-dire de dialoguer avec sa mémoire et avec l'oubli. Je vous cite ou paraphrase presque.
Hein. C'est une question qui me trouble toujours, parce que je pense que c'est une question, si on l'a posée à Saint-Augustin ou à Proust, il ne saurait pas non plus comment répondre. Comment est-ce que... Je ne sais pas, je veux dire des banalités, mais pourquoi le petit Marcel de la recherche n'a pas de penchant homosexuel, à part une certaine fascination pour d'autres homosexuels? Pourquoi Saint-Augustin écrit absolument tout ce qu'il sait que Dieu sait déjà, puisque Dieu sait ce qu'il confesse, ce qu'il avoue. Je pense que dans l'écriture, c'est pas du tout ça qui est en jeu. C'est pas du tout de dire la vérité ou de l'inventer. Y a une phrase que je cite d'Antonio Machado qui est « On ment plus qu'il ne faut par manque de fantaisie. La vérité s'invente aussi. » Je pense que ça, c'est clair, quoi. C'est-à-dire que pour dire la vérité, il faut inventer.
En tout cas, la mémoire est au cœur de votre écriture et de votre œuvre, Santiago Amigorena. Écrire et décrire, dites-vous, c'est d'ailleurs deux mots comme ça accolés, sont assez étranges. Écrire et décrire permet de faire ressurgir les espaces du passé, de faire remonter la mémoire. C'est absolument ce que vous faites.
Oui, quand je dis décrire, c'est pour m'excuser parfois de mal écrire, disons. Quand on décrit un lieu, quand on décrit une situation politique, parfois on est tellement en dehors de ce qu'on est en train de raconter que je trouve que le langage, le vocabulaire, la syntaxe peuvent devenir un peu banal. Cette opposition écrire-décrire, elle est simplement pour faire peut-être un peu de fausse modestie ou de vraie modestie. Mais évidemment, quand je commence à écrire, je ne me souviens pas de tout. Les souvenirs affleurent avec l'écriture.
Vous écoutant, vous lisant aussi, on pense, et vous les citez d'ailleurs, à Proust, à son œuvre colossale, La recherche du temps perdu. Vous dites d'ailleurs, vous placez dans ses pas. Proust à qui, en 1963, un autre écrivain, Louis-René Desforêts, que vous venez de citer aussi, avait consacré une émission sur la radio-télévision française. Je ne savais même pas que cela existait avant de découvrir cette archive.
On sait que l'œuvre de Proust fut écrite fiévreusement, sans relâche, comme sous la pression du temps et l'imminence de la mort. Et cependant, c'est le long désœuvrement des années de jeunesse, maintes fois déplorées, qui a rendu possible le travail de la maturité. Cette attente patiente, cette lente maturation, cette vie qu'une vie longtemps désœuvrée va prêter à l'œuvre, que nous apprend-elle ? Qu'il faut savoir attendre du temps le passage à l'accomplissement. L'acte d'écrire a un caractère privé, irréductible à toute valeur, étranger et même hostile à toute expérience qui ne soit pas singulière. Écrire, c'est donc se jeter dans le risque, sans appui ni référence à aucune œuvre exemplaire. Dans l'absence, ou plutôt l'oubli de toute culture, c'est obéir à une loi intérieure elle-même tantôt dénoncée, tantôt justifiée par le mouvement même qui la fonde.
Santiago Amigorena, le temps, le mouvement, la mémoire, est-ce que vous reconnaissez chez Louis-René Desforêts ce qui vous intéresse chez Proust ?
Oui, absolument. Louis-René Desforêts est une de mes références absolues. C'est un des lecteurs vraiment pour qui je pense que j'ai écrit et publié mon premier livre. J'ai eu la chance qu'il le lise et qu'il m'écrive une lettre. Ce qu'il dit pourrait sembler un peu contradictoire avec ce que je fais, où je cite énormément d'auteurs dans mon écriture, mais je pense que là, c'est-à-dire qu'il y a une manière de citer où on n'est plus dans un rapport où l'écriture se s'entrave pour faire part avec d'autres œuvres, pour se mettre au pied des autres œuvres ou pour se mettre dans les pas des autres œuvres. Je pense qu'il y a un statut de la citation que j'essaye d'atteindre où il est question seulement d'une forme de loyauté à ce qu'on a lu et aussi d'une non-remise en question. C'est-à-dire que je ne cite jamais un auteur pour l'interroger, pour savoir s'il a raison ou s'il a tort. Je pense que voilà, moi je cite des auteurs qui me semblent avoir toujours raison et c'est ça que j'aime bien.
Écrire, c'est se jeter dans le risque, pour vous aussi. Et est-ce que, question subsidiaire, est-ce que le risque c'était aussi d'écrire dans une langue étrangère, puisqu'il y a eu ce premier exil et le second qui vous a fait changer de continent et de langue ?
Ouais. Proust disait qu'on écrit toujours dans une langue étrangère, donc on doit effectivement inventer sa langue dans n'importe quelle langue. Je pense que l'exil favorise un peu cette recherche, c'est-à-dire qu'on est évidemment dans une langue étrangère. En français, il y a une longue tradition d'écrivains de langues maternelles différentes qui depuis Potocki, en passant par les Roumains jusqu'à Beckett, voilà, on s'inscrit facilement dans une tradition aussi en écrivant en français quand on n'est pas de langue maternelle française. Le moment où on écrit, c'est toujours du côté du risque, c'est sûr. C'est-à-dire chaque matin, je prends mon stylo, ma feuille, et j'écris. Et parfois, je sais que ça ne servira à rien, que ce sera mauvais, que je vais tout barrer le lendemain. Et parfois, il y a un mot qui me semble juste et qui reste.
En tout cas, aujourd'hui, vous écrivez dans la langue de Proust.
J'écris dans sa langue en cherchant une autre langue.
Merci beaucoup, Santiago Amigorena. Le premier exil, donc l'un des chapitres de ce dernier livre, est édité chez POL comme l'ensemble de votre œuvre. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. Et on se retrouve demain pour parler, tiens, encore du silence.